Oui.
Pardon ? Le Bauhaus, oui. Oui. Revenir à la vie. Oui. Alors, la dernière image qu'on ne voit pas ici.
Et puis j'ai vu que Mios Chicago, ça a été repris à Chicago.
Je vais vous montrer la dernière image pour répondre à la question. Oui, il y avait deux images de designers au travail. Et c'était la dernière image de la série. Et la question, c'était quel est le rapport entre ce qu'on vient de voir et une école de design. Et vous savez peut-être, le Bauhaus, c'est la première école de design moderne. Dans l'histoire, depuis 20 siècles, moderne, architecture, design, urbanisme, appliquer, etc. Et c'est parce que je me suis intéressé personnellement et qu'on s'intéresse à cette école que c'est par la suite une question qui ont été évoquées, exposées.
Elle est née en 1919,
juste après la guerre, depuis dans le cadre de la République de Weimar. Donc, quel est le rapport avec. En quoi ça peut intéresser des personnes qui sont appelées à établir des projets, à les réaliser dans le monde? Eh bien, c'est de se poser, quand on est en situation de projet, d'essayer de se demander qu'est-ce qu'on fait vraiment quand on fait un projet. Est-ce que simplement on bricole des trucs parce qu'il faut, avec un peu de technologie et avec un certain goût artistique, pour que ça puisse se vendre comme il faut et pour que ça plaise dans les intérieurs contemporains, ou est-ce qu'on ne fait pas en même temps quelque chose de peut-être de plus important, de plus difficile? Donc c'est pour les inciter à se poser cette question. Peut-être que quand on conçoit un projecteur diapositif qui marche, ou un lampadaire de salon, ou un set de table pour les réceptions dans vos dîners entre amis, on n'est pas amené à se demander si on va transformer le monde. Mais quand on travaille sur des questions architecturales, des questions urbaines, là on est dans des échelles, des dimensions et de complexité surtout assez importantes, parce que le projet dont il est question concerne d'autres personnes, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont vivre dedans, qui vont y vivre tous les jours. Ça va avoir des conséquences sur la vie quotidienne. Donc ça a une application beaucoup plus forte que les simples questions esthétiques, de savoir quelle forme doit avoir la façade, quelle couleur doit avoir les peintures à l'intérieur, ou des questions technologiques, avec quel matériau vais-je les construire. Or, dans les écoles, on insiste beaucoup sur les deux dernières questions que je viens d'évoquer, et on insiste en général pas trop sur les premières questions, parce qu'on juge, je crois, que c'est pas nécessaire, que c'est pas pertinent. Évidemment, c'est difficile de se dire que chaque fois que je fais un projet, je change l'ordre du monde. Mais quelque part, en creusant un peu, on finit toujours par tomber sur cette façon de voir les choses, puisqu'un projet est toujours destiné à quelqu'un d'autre. Donc au moins on change l'ordre du monde de quelqu'un d'autre, collectivement. Donc il y a une dimension qu'on peut appeler politique, éthique. Pardon.
Multidisciplinaire.
Oui, multidisciplinaire, c'est ça. Oui, mais éthique aussi. C'est-à-dire ça concerne les autres personnes. Donc on a une responsabilité à cet égard. Et je pense que cette façon de se raccrocher à l'histoire d'une façon de penser le monde permet de révéler un peu cette question de la responsabilité. Ça permet aussi de se dire qu'on n'a pas toujours pensé comme on pense aujourd'hui, et qu'il est peut-être possible à l'avenir de penser différemment que de la façon dont on pense aujourd'hui. Je crois qu'on est aujourd'hui à une période historique de cet ordre. Tout le monde parle de la crise, tout le monde dit, ben là, il va falloir que ça change, non seulement dans les banques et dans les affaires, mais il va falloir que ça change dans les façons de vivre, quotidienne, dans les façons de penser, dans les façons de penser l'économie, dans la façon de penser le monde, etc. Donc on est ici, encore une fois, dans une situation de projet, puisqu'on sait bien que le destin du monde est dans les mains de ceux qui l'imaginent et qui le construisent. Je crois que la pertinence est valable. Mais cette profondeur historique permet de relativiser un peu les choses et surtout de diminuer un peu l'arrogance qu'on a tendance à avoir un peu dans notre monde contemporain, depuis l'époque des Lumières, d'être un peu plus modeste, vu la complexité de la tâche qui se présente à nous. D'autres questions, oui? Oui?
Attendez, je me rapproche parce que...
Alors, l'école de Barros, une des caractéristiques principales, c'est d'avoir voulu instaurer une façon de penser plus rationnelle dans la pratique artistique. À l'époque, on parlait encore de pratique artistique. Elle se considérait elle-même encore comme une école d'art. Le premier geste du fondateur du Barros a été d'exiger de la part des autorités d'être le directeur à la fois de l'école des Beaux-Arts et de l'école des Arts. Il a dit, si je n'ai pas les deux, je ne fais pas le projet. Donc, il a obtenu ça de la part à l'époque, c'était un peu le grand duc de Saxe-Anhalt, mais on était en période révolutionnaire. Et le premier geste qu'il a fait, après avoir été directeur, c'est fermer l'école des Beaux-Arts. Donc, il a dit qu'aujourd'hui, désormais, dans le monde dans lequel on vit, il n'y a plus de pertinence à une pratique artistique sans objectif politique. C'est pas le terme que j'ai utilisé. C'est-à-dire sans qu'il y ait là une responsabilité à l'égard de l'avenir du monde dans lequel nous vivons. Donc il considérait qu'il était irresponsable. On est au début du XXe siècle, et ça renvoie un peu à ce que Dédé disait la dernière. Il était irresponsable aujourd'hui de former des artistes qui feraient de l'art, donc de former des peintres de chevalet, ou de former des sculpteurs qui allaient répondre à des commandes de riches mécènes ou des commandes encore religieuses à l'époque, si ça existait encore. Que désormais, les artistes avaient une tâche dans la société et dans le monde. Donc on a fermé l'école des Beaux-Arts, c'est-à-dire qu'on ferme le département de peinture, on ferme le département de sculpture, on ferme le département d'architecture qui à l'époque était encore considéré comme un des Beaux-Arts, n'est-ce pas? On crée une architecture nouvelle qui est basée sur une façon de penser plus rationnelle. D'où le mot d'ordre, art et technique, une nouvelle unité. Dans technique, il ne faut pas voir uniquement les nouveaux matériaux, le métal, le verre, le caoutchouc, etc. Il faut voir une façon de raisonner qui est plus proche de celle des ingénieurs et de l'entreprise et de l'industrie. Donc l'idée, c'était de dire, il faut absolument que les artistes contemporains connaissent les méthodes de l'industrie, par exemple, connaissent mieux les matériaux, de façon à ce que leur production artistique soit plus responsable. Je pense que ça, c'est la caractéristique principale. Après, évidemment, ça se traduit formellement par des formes que vous connaissez très bien, ce qu'on appelle l'architecture moderne, c'est-à-dire des cubes blancs, sans ornement, il n'y a plus d'ornement, il n'y a plus de papier peint, il n'y a plus de tapis par terre, ou alors s'il y a des tapis, c'est des tapis avec des formes géométriques, qui sont des tableaux de Malevich, d'art abstrait. Les formes du mobilier sont épurées à l'extrême. Donc ça, ce sont des choses que l'on connaît très bien. On a vu beaucoup d'images de cela, et l'image du bâtiment que je vais montrer, c'est la représentative. Donc, le Barros est plus connu pour ça, pour avoir été l'initiateur de cette espèce de style, alors que Bropius disait très bien que la dernière idée que j'ai en tête, c'est de créer un nouveau style. Hélas, c'est une utopie qu'on retrouve à l'occasion dans l'histoire de l'art et dans d'autres histoires, et on sait très bien que ça ne marche pas. C'est comme Dada qui disait on ne veut plus faire de l'art, et puis Dada on le trouve dans les musées. Donc, et là on était dans cette époque, c'est une époque de table rase. On veut tout oublier du passé, on veut refaire l'histoire, on veut refaire le monde. Et au Doros, on disait pour refaire le monde, il faut refaire le monde. C'est un sacré programme. Ça dépasse la dimension formelle et esthétique.
Ça arrivait aussi après la période de la guerre, la destruction, tout était comme c'était un besoin de redonner la beauté au monde.
Ils reviennent à l'essentiel. Donc on peut dire que ça, ils tentent de revenir à l'essentiel. Ne serait-ce que formellement. Oui, Dédé.
Bien, en fait, il y a tous les métiers de ce qui est une course de l'orage, tous les gérants, tout ça. Mais d'après toi, qu'est-ce qui a pas pris? Pourquoi, en fait, il y a eu cette vision du monde qui était intéressante, d'ailleurs, en France, et pourquoi ça n'a pas pris?
Ça a pas pris parce qu'en 15 ans, tu ne peux pas faire des miracles. Ça a pris parce qu'il faut du temps. C'est un programme comme celui-ci. Le programme des Lumières, ça a mis combien de temps? C'est encore à l'heure de l'heure. Donc là, on ne fait pas ça en une génération. Donc ça a pas pris parce qu'on a fermé. Après, quand il s'est
passé, c'était trop tôt.
Ah, c'est possible, parce qu'on peut dire ça. C'était trop impensable.
Il y a des nazis qui étaient arrêtés.
C'est trop hérétique par rapport aux façons de penser des Allemands. Hein. On a réagi contre ça. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a rouvert l'école des Beaux-Arts à côté. Premièrement. Ensuite, le gouvernement de Weimar, dans lequel le premier Barros s'est installé, après 5 ans, il a fermé la boutique. C'est-à-dire, il a coupé des budgets, il a dit non, on ne fait pas de la politique, nous on veut faire forme de l'art. Donc il a fallu déménager dans une autre ville, plus accueillante. Le parti communiste était au pouvoir, donc il y a les questions politiques qui se sont mélangées, le directeur a changé, le programme social, politique et architectural s'est modifié légèrement. C'est pas très vite non plus comme histoire. Rien qu'en 14 ans, là, il y a des choses étonnantes qui se sont passées.
Et la deuxième ville, c'était quoi?
Descente.
Comment?
Descente. D-E-2-S-A-U. Le panneau d'autoroute, là, c'est quand vous arrivez à descendre sur l'autoroute, vous le trouvez, et vous sortez, vous allez visiter, ça vaut le détour, hein, sinon les déplacements. Il y a un très bon restaurant là. Ça a survécu à l'époque communiste. Avec tout juste, il y a eu des menaces de démolition, et il y a eu une volonté de mettre en toit nazi, un toit pentu, bien allemand, sur l'édifice pendant la période.
Quel serait le continuateur aujourd'hui du Barros?
Alors, il y a plusieurs continuateurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme les postmodernes, on dit que le Barros c'est un nid de rationalisme, c'est le nid du modernisme le plus pur, il faut mettre une croix dessus. Donc on a foutu tout par la fenêtre, mais en même temps on a mis le projet politique, le projet intellectuel et le projet spirituel par la fenêtre aussi. Alors il y a eu quelques continuateurs. Alors institutionnellement, il y a eu le nouveau Barros de Chicago, qui existe toujours, l'école existe toujours. Elle a renié son héritage. Pour des raisons liées à l'histoire des États-Unis, je ne peux pas entrer dans le détail, il faudrait une conférence. Mais bon, pour des raisons, disons, économiques liées à la politique américaine, en gros, parce que les Américains, qui sont très pragmatiques, au sens le plus étroit du terme, ont dit, ben, nous, on ne veut pas une école de design qui forme des gens qui réfléchissent sur l'état du monde, l'avenir du monde, le passé du monde, le monde intérieur. Non, nous, on veut des gens qui fabriquent des choses, parce qu'on est en 1900, on était là en 1947-50, on est à la guerre, il faut reconstruire le pays, il faut fabriquer des meubles, voilà. On ne veut pas des gens qui parlent, qui idéalisent. Donc, ils ont renié, mais récemment, ils ont renoué avec le héritage. Donc, l'école qui existe à Chicago, qui s'appelle Institute of Design, elle se revendique maintenant son passé. Donc elle refait le lien avec l'école. Maintenant, ça c'est dans le discours. Est-ce que dans les faits, c'est le cas? Ça c'est autre chose. C'est pas tout à fait le cas. Ensuite, il y a eu d'autres tentatives, parce que les profs du Barnes ont dû émigrer pour la plupart. Soit parce qu'ils étaient juifs, soit parce qu'ils étaient étrangers, soit à cause des deux, soit parce qu'ils étaient devenus invivables en Allemagne pour des artistes. Vous savez que Hitler a organisé cette fameuse exposition d'art dégénéré, n'est-ce pas, en 1935, 36, 37 peut-être. Tous les profs du Bauhaus étaient dans l'expo. Donc il ne faisait pas bon être en Allemagne à ce moment-là. Donc ils ont été ailleurs, et bien on les a engagés parfois dans d'autres écoles. Ensuite, après la guerre, après la deuxième guerre, quoi, il y a eu dans le monde occidental une création d'écoles d'architecture et de design très importante, moderne. Elles se sont toutes revendiquées de l'héritage du Bauhaus parce que c'était la seule à avoir eu un programme aussi ambitieux, aussi détaillé. Donc dans toutes les écoles, à partir de 1950 jusqu'en 1970, on a enseigné l'architecture et le design comme on l'a fait au Bauhaus. Sans toujours savoir quel était le contexte. On a eu beaucoup trop d'images, on a copié des images, on a dit non, on va faire comme au Maroc, on va faire ça. Ça, c'était l'époque qu'on appelle fonctionnalisme dans le domaine de l'architecture et du design. C'est-à-dire, le fonctionnalisme, c'est la version rationaliste, la version lumière, si vous voulez, de la pratique du design. C'est une méthode rationnelle telle que l'utilise l'ingénieur. Le souci de se détacher de toute considération esthétique formaliste, l'art pour l'art, l'ornement pour l'ornement. Donc, c'est ce qui explique les formes auxquelles on a abouti. Ensuite est venue la crise du modernisme dans ces domaines aussi. D'ailleurs, ça a commencé en architecture avant que ça commence, par exemple, en philosophie, ce qu'on appelle le postmodernisme. Donc, on est au début des années 70. Milieu des années 75, et là on est dans un autre monde. On le verra dans la troisième séance, je vais vous montrer quelques exemples du postmodernisme dans ces domaines et de la façon dont les formes que je vais vous montrer nous racontent le monde dans lequel on se trouve encore aujourd'hui. Voilà. Alors, il y a des continuateurs. Alors, les continuateurs, ça réside dans des personnes, des profs comme vous et moi, si vous voulez, qui sont fidèles, qui croient encore qu'il y a là quelque chose à glaner qui pourrait être intéressant et qui pourrait nourrir l'enseignement. Mais il n'y a pas d'institution, si vous voulez, remarquable dans le monde qui puisse dire « nous sommes le nouveau Bauhaus ». Il y en a une qui le prétend, elle se trouve à Karlsruhe. Le directeur de cette école est Peter Sloterdijk, qui est un philosophe contemporain très connu, très contesté, très médiatique, très intéressant. Et elle s'est qualifiée elle-même, cette école, de Bauhaus électronique, puisque c'est une école dans laquelle on pratique les arts médiatiques avec toutes les nouvelles technologies. Bon, mais c'est un effet d'annonce, quoi. C'est de la médiatisation. Et je ne crois pas qu'au niveau des méthodes, je crois qu'on est plus dans la même sensibilité très postmoderne. Avec cet excès expressionniste.
À 15, ils ont des liens avec Chicago ou pas du tout?
Pas du tout.
Aucun.
Non, je ne crois pas. La tentative la plus importante historiquement a eu lieu en Allemagne après la guerre, avec des fonds américains, une fondation qui a été principalement alimentée par un groupe qui s'appelait la Rose Blanche, les Weiße Rose. Et donc on est d'une famille dont les enfants ont été tués par les nazis en 1944. Ce sont les enfants Scholl. Peut-être vous avez vu le film de Sophie Scholl. Bien, cette fondation a proposé au plan Marshall, aux Américains, de financer un projet qui serait exemplaire à l'égard du monde, pour dire voilà l'Allemagne, on tourne la page, on est maintenant en 1950, là on est en 1948, donc on veut oublier ce passé, on veut que ce projet soit exemplaire en termes de valeurs humaines, de valeurs éthiques, tout ça. Donc il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites, et celle qui a été retenue, c'est d'ouvrir une nouvelle école d'art et de l'architecture à Ulm, dans la ville de Houl. Cette école a ouvert en 1953 sous le nom de Haute École de Design, si vous voulez. Et elle a duré exactement le même nombre d'années que le Barhaus, c'est-à-dire 14 ans. Elle a été fermée en 68 pour des raisons politiques également. C'est le cas le plus intéressant. Et au niveau du programme, au niveau de l'ambition politique, de l'ambition sociale, de l'ambition esthétique également, elle égale le Barhaus de ce point de vue-là. C'est très peu documenté en français là. En bibliographie, il y a maintenant un regain d'intérêt pour cette école. Donc, elle a ouvert en 53, elle a fermé en 68. Il y a eu plusieurs directeurs successifs. Certains sont encore vivants et témoignent encore de cette époque. C'est dans cette école d'Oul que la dimension rationaliste s'est développée un peu à l'extrême. C'était ultra-fonctionnaliste et rationaliste. Mais il y a eu des choses absolument magnifiques qui ont été produites là-bas, en particulier des objets réels. Le plus connu, c'est l'industrie Braun, l'industrie allemande, hein, qui fait des producteurs de drapeaux, des chirurgies et tout ça. C'est les premiers objets, les rasoirs. Hein. Ça a été conçu dans le fond.
Sinon, en France, il y a quelqu'un comme Le Corbusier,
oui.
Quand même, qui a
un petit peu. Alors, Le Corbusier, vous connaissez très bien Le Corbusier. Donc, le fondateur du Barhaus, qui était architecte. Gropius était le seul architecte du corps professoral. Au début, il y avait une dizaine de profs, tous des artistes. Donc, c'est assez étonnant de faire l'école d'architecture du design avec que des artistes. Mais pas n'importe quels artistes, c'était des artistes d'avant-garde. Donc, je fais une petite parenthèse d'avant-garde. Bon. Par exemple, Kandinsky, Klee était prof au Barhaus. Alors, Kandinsky, par exemple, avait une inclination très rationaliste pour essayer de rationaliser les formes culturelles. Il parlait de faire une grammaire de la peinture. Mais il avait également une inclination spiritualiste, celui qui a créé du spirituel dans l'art. Donc, il y avait cette dimension que j'ai mise en évidence, le projet anthropologique, qui était vraiment porté également par ces profs, comme Paul Klee. Paul Klee s'intéressait aux philosophies orientales. D'autres profs, comme Schlemmer, par exemple, s'intéressaient également à ces questions-là. Donc, voilà une autre particularité du Barhaus, le fait que ce n'étaient pas des architectes qui enseignaient, parce que Gropius ne pouvait pas trouver autour de lui des architectes capables d'enseigner l'architecture comme il le souhaitait. C'était que les architectes des Beaux-Arts. Le Corbusier en était un. Sauf qu'à l'époque en France, où Corbusier travaillait, il n'était pas question d'aller avoir des contacts avec les Allemands. Il s'écrivait, Corbusier a été exposé au Barhaus, tous les étudiants connaissaient le Corbusier. Le Corbusier a fait, avant la guerre, en 1913, un voyage d'études en Allemagne, au cours duquel il a rencontré Walter Gropius, qui travaillait à ce moment-là chez un autre architecte, avec Nils van der Rohe. Ils se connaissaient très bien. Et le Corbusier, à la suite de ce voyage d'études, a fait un rapport sur la façon dont les arts appliqués s'enseignaient en Allemagne. Et il a dit, dans le monde francophone, c'est comme ça qu'il faut enseigner l'art. Et non pas comme on le faisait encore en France à l'époque, et qu'on le fait encore aujourd'hui.
Dans quelle année, ça?
Le Corbusier, là, en 1913, avant la guerre. Mais après, il n'était plus question d'avoir des relations avec l'Allemagne, c'était trop suspect. Delaunay, par exemple, connaissait très bien les profs du Barhaus, Robert Delaunay. On a trouvé la correspondance, mais il ne pouvait pas avoir les échanges qu'ils auraient souhaité avoir. La France, dans cette histoire, c'est un parcours assez particulier. La France a refusé la rupture moderne, moderniste, pas totalement, elle l'a acceptée formellement. Il y a un modernisme français dans la production artistique qui se manifeste dans l'art déco. Si vous voyez la différence entre l'art nouveau et l'art déco, bon, c'est une espèce de cubisme en mobilier, en architecture. L'ornement ne disparaît pas complètement, mais enfin, c'est quand même assez carré, un peu épuré. Bon. Mais il n'y a rien d'aussi radical. Il y a eu une tentative, justement, avec Le Corbusier et d'autres artistes français, Fernand Léger par exemple, de créer quelque chose de similaire, ça n'a pas tenu longtemps. l'événement peut-être le plus significatif de ces différences, ça se passe en 1929 au salon, un salon consacré aux arts appliqués à Paris, je veux dire le salon des décorateurs. Donc dans ces salons, on confie aux artistes, aux designers, des stands dans lesquels ils exposent leur travail. En 1929, c'est la première fois que l'Allemagne a de nouveau pu être invitée en France à exposer. C'est intéressant. 1929, donc c'est après 18, il a fallu attendre 10 ans. Bon, ça a été, ça, déjà, ça a fait lever le pied dans les journaux de dire on ne va pas inviter les Boches à exposer à Paris. Et qui on a choisi en Allemagne pour faire le stand? Gropius. Et les artistes du Barros, qui Gropius n'était plus directeur à l'époque, il était revenu architecte dans son atelier à Berlin. Donc c'est eux qui ont fait la proposition. Alors ils ont construit une unité modèle, un appartement modèle, si vous voulez, qui a en tube d'acier, en verre, en caoutchouc, en linoléum, tout ce que des grillages, tout ce que vous pouvez imaginer de plus ultra moderne. Et les Français, dans leur composition, ils ont fait l'entrée d'une ambassade, je ne sais plus dans quel pays du Moyen-Orient, avec évidemment le goût français, avec les ébénistes, tous les artisans d'art, les ferronniers, les verriers, etc. Avec évidemment beaucoup d'ornements, des belles tapisseries, des tapis par terre, la qualité française. Et les deux étaient pas loin l'un de l'autre. Donc là, on a pu voir dans quel monde différent nous trouvions. Et Corbusier, il se battait contre ce monde. Il n'était pas très à l'aise, enfin. De toute façon, il n'avait pas de commande.
En fait,
c'était Art déco. C'était Art déco un peu plus sophistiqué parce qu'on était au salon du truc et que c'était pour un ambassadeur. Donc il ne fallait pas que ce soit trop. Que ça s'écarte. Donc, le Barros n'est pas passé en France.
Mais chez le Corbusier, il y a quand même des projets justement qui étaient humains, politiques,
des
projets de ces maisons qui étaient à la fois des villes, tout place, où il y avait des possibilités de communiquer, quand il y avait une architecture utopique.
Complètement. Non, il est tout à fait dans l'esprit du Barros. Mais il n'a pas fait l'école. On lui a pas dit tu vas nous faire l'école la plus moderne du monde en France ou en Suisse. Donc il était solitaire, mais il était avec eux en totale sympathie intellectuelle et artistique et autre, politique aussi.
Oui, mais ça a été continué quand même cet esprit fonctionnaliste, même à Nîmes, si on prend l'exemple de Nouvelle quand même.
Oui,
le bâtiment qui est là pour caractériser, je veux dire, il y a eu une suite,
oui.
Ça a marqué.
Oui.
Et puis même, je pense, dans la peinture, même tout le travail de la matière,
oui.
C'est certainement hérité de ça.
Oui. On peut lire l'histoire de cette façon. Je ne partage pas votre lecture de Nouvelle. Alors, Nouvelle, évidemment, ça, si vous regardez Mimosus, on dirait un bâtiment du Barros. Mais Nouvelle, il y a un travail de l'ornement qui est particulier sur la technologie et tout ça. Il y a un travail très formaliste, donc qui est le contraire du fonctionnalisme. Formaliste, c'est la forme pour la forme. Sans souci d'usage fonctionnel principal, qui est très présent dans son discours aussi. Je ne suis pas très, très objectif sur le mot.
Ça
gratte un peu.
Le musée du Quai Branly est fonctionnel. À part peut-être l'esthétique de la rampe d'accès, de la
Alors,
part, mais il est quand même très fonctionnel.
Peut-être qu'il est très critiqué. Je ne connais pas. Oui, je ne connais pas le. Peut-être pour le public. Mais je crois que les gens qui travaillent.
Une forme d'architecture qui ne penserait du tout aux gens qui vont vivre.
Oui, mais même au moment, c'est le cas. Actuellement, c'est le cas.
Mais Le Corbusier, c'était un petit peu pareil. Moi, je connais bien Firmini, ce qu'il a fait à Firmini dans la Loire. On est très mal assis dans son théâtre. On est assis sur des espaces comme ça, en béton. Déjà, pour y aller, il faut être... Il faut avoir des bonnes jambes, des bons yeux et tout. C'est assez étonnant.
Oui, je connais bien le projet de Firmini. J'ai même passé du temps dans les appartements de
Firmini.
Oui, de Firmini. Alors, c'est bien la preuve que le souci formel ne peut pas être évacué complètement. Donc, le fonctionnalisme radical est une utopie. Alors, le fonctionnalisme, c'est-à-dire le souci d'éviter tout travail artistique formel gratuit, est impossible. Il y a toujours un espace de liberté. Quand vous devez décider de la forme, par exemple, d'un bureau, on va dire, ben on va les faire rectangulaires parce que c'est plus facile à ranger, ça prend moins de place, c'est plus facile à fabriquer, ça coûte moins cher et tout ça. Mais il n'y a rien qui vous empêche de les faire ovales. N'est-ce pas ? Alors, la décision de les faire carrés ou ovales, ben là, je prends un exemple peut-être un peu trivial. Elle n'est pas uniquement, on ne peut pas uniquement en rendre compte de façon rationnelle, même si les fonctionnalistes disent que le résultat formel final, il est univoque. On va mettre au point une méthode de façon à ce qu'on n'ait plus de liberté, d'espace de liberté formelle. Même pour la couleur, pour la texture, pour la hauteur. Pour la hauteur, bien sûr, ça on le comprend bien. Mais même pour la couleur et tout ça, ils vont toujours essayer de trouver des raisons rationnel, donc scientifique, donc avec une logique déductive qui permet de dire, eh bien voilà, c'est cette couleur qui convient le mieux. Alors on va leur dire pourquoi, donc il faut qu'ils explicitent leurs raisons, alors qu'un artiste n'a pas à expliciter les raisons pour lesquelles il ou elle a choisi telle forme. Même un artiste d'art appliqué, aujourd'hui les artistes d'art appliqué, si vous allez voir le salon du meuble à Milan ou n'importe quel salon de mobilier en France, les artistes, ils vous sortent des chaises, ils vont vous dire, ben voilà, ne me posez pas de questions, c'est ma chaise, c'est moi l'artiste, je l'ai signé. Vous ne l'aimez pas, c'est pas grave, je vais trouver quelqu'un qui va l'acheter, et puis je vais le publier dans les magazines, etc. Je suis un peu cruel, mais c'est un peu comme ça quand même. Et c'est comme ça que c'est enseigné. Voyez ? Donc, il y a ce retour de la signature, pour aller vite. Au Barreau, c'est anonyme. On ne voulait pas signer. Je veux dire, c'est une métaphore. Mais l'idée, c'est qu'on se met en retrait derrière le projet parce que le projet est social, politique et éthique. On est au service d'une utopie, qu'on partage ou non. On est au service d'un projet sur le monde. On n'est pas au service de soi-même. Donc ça renvoie à la conférence de la semaine dernière. Mais dans les arts appliqués aujourd'hui, on est revenu au projet signé. C'est pour ça qu'on trouve des formes les plus aberrantes possibles. Alors, si vous trouvez que vous avez du mal à vous asseoir sur les trucs de Corbusier, bonne chance pour le mobilier contemporain. C'est le dernier de leurs soucis. Vraiment. Même malgré, si on les écoute, ils ne vous le diront pas, mais...
Mais l'urbaniste, il doit aller dans le sens du public, enfin,
tout à fait.
Tout à fait. En même temps, est-ce qu'il ne doit pas peut-être trouver des solutions pour l'obliger à évoluer, peut-être à vivre, disons, mieux, sans qu'ils s'en rendent compte. Il y a bien des évolutions.
Oui. Alors, les urbanistes...
Il y a un dosage, là.
Oui. Dans les professions du projet, les urbanistes sont ceux et celles qui sont le moins soumises à la tentation formaliste. C'est ceux et celles qui sont le plus soumis à des contraintes pour concevoir les formes urbaines qu'elles vont concevoir. Des contraintes de tout ordre. C'est peut-être une des professions du projet les plus complexes avec le paysage.
Sans parler de contraintes,
des exigences.
Une autre forme de vie.
Oui.
Qui se pourront mieux.
Oui.
C'est lui qui l'aura trouvé.
Oui. Alors, voyez, on conçoit plus des formes bâties, mais des formes de vie, comme vous dites si bien. Et concevoir des formes de vie pour quelqu'un d'autre, c'est une sacrée responsabilité, vous vous rendez compte.
D'accord, mais enfin, quelquefois ça réussit, quelquefois c'est le chèque total, même si ça paraît
bon. Donc là, il y a une nouvelle rationalité qui se met en place actuellement, qui est une rationalité qui dit, en gros, alors là je vais vraiment très vite, qui dit la chose suivante, nous sommes au service du public, dans la mesure où on intervient dans l'espace public. Bon, si on intervient dans l'espace privé, c'est d'autres questions, mais c'est vraiment, c'est pas la première urgence de refaire un énième canapé pour monsieur et madame, etc., ou un énième lampadaire ou tout ça. dans l'espace public, par exemple, si vous concevez, je ne sais pas moi, un guichet automatique de banque, un distributeur de billets de SNCF, une rame d'autobus un système de vélo pour une ville comme la ville de Nîmes, etc. Quand vous concevez des choses comme ça, vous vous mettez au service de ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience de l'usager. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est bien comprendre comment les usagers qui n'ont pas la même formation intellectuelle que nous, les urbanistes ou les architectes, font l'expérience de ces équipements publics. Avec quel type de rationalité ils et elles vivent dans ces mondes-là. Alors, les fonctionnalistes historiques avaient fait l'erreur suivante, c'est qu'ils s'étaient trompés d'anthropologie. Ils avaient cru que les usagers étaient aussi rationnels qu'eux. Mais on sait très bien que dans nos choix quotidiens, dans nos façons de vivre, on n'est pas rationnel au sens, n'est-ce pas, cartésien, où on l'entend. On a des coups de cœur, on fait des choix qui sont pas, dont on ne peut pas toujours rendre compte rationnellement et pas toujours raisonnablement non plus. Alors il faut se mettre au service, en tout cas essayer de comprendre ce qu'on appelle l'expérience usagère aujourd'hui, ou l'expérience habitante, pour concevoir un cadre de vie qui corresponde à ces façons donc de vivre que nous avons tous et toutes en tant que citoyens, concitoyens, mais également en anticipant un petit peu peut-être, puisqu'on a la chance d'avoir une certaine lucidité à cause des études qu'on a faites et du regard qu'on porte sur le monde, en anticipant un petit peu pour essayer d'améliorer les choses, non pas pour répondre aux désirs tels qu'ils sont exprimés, parce que ces désirs ne sont pas toujours raisonnables, en particulier pour la planète, par exemple, mais également pour les conditions sociales. Donc, l'anticiper un petit peu. Et c'est cette anticipation qui fait que la situation d'être en projet est une situation complexe et qu'il faut absolument comprendre.
Oui. Je me pose une question, justement, suite à ces objections de partout. Est-ce que, là, sous-jacent, il n'y a pas derrière la question de différenciation entre l'artiste, finalement, et l'artisan? Je prends un exemple sur... très bon exemple que vous avez donné sur le statut de l'architecte qui apparaît finalement.
Oui.
Et donc qui apparaîtrait entre l'artiste et l'artisan, un peu de plus. Et puis cette distinction remonte à Platon, si on remonte à la philosophie. Donc est-ce que tout le long, aujourd'hui y compris, on ne serait pas dans une zone un peu obscure où on ne sait plus tellement distinguer l'artisan de l'artiste,
ou
peut-être on n'a plus à le distinguer?
Oui. Alors, ça renvoie à la discussion de la semaine dernière, c'est peut-être beaucoup d'accord. L'idée a fait la distinction entre art et art appliqué. Donc, art appliqué, ça renvoie aux artisans et art aux artistes. Alors, cette distinction existe toujours. Et c'est sur cette distinction que le Baroque s'est construit. Donc, vous avez bien raison d'insister sur cette distinction. Aujourd'hui, est-ce qu'elle est encore pertinente? Les artisans d'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait les mêmes que ceux du 19e siècle, parce que l'outil de fabrication a changé, n'est-ce pas? Les artisans d'aujourd'hui, c'est les entreprises. C'est elles qui fabriquent le monde. Bon. Alors, et les artistes, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elles font? Voilà, c'est la question que posait la semaine dernière Dédé avec la question de l'intériorité. Est-ce que les artistes doivent continuer à simplement mettre en évidence leur intériorité? Et dire, le public, il n'a qu'à se débrouiller avec ça, c'est plus mon problème.
Oui, on peut aussi considérer qu'ils enchantent le monde.
Oui.
Les artistes.
Oui.
Est-ce qu'ils sont en train de passer uniquement pour eux, mais ils sont aussi pour les autres?
Oui, ben, ça, c'était la discussion de la semaine dernière. Non, mais vous avez raison. La question, c'est de savoir est-ce que ce réenchantement est perçu par le public auquel il s'adresse. Voilà. Est-ce que, en étant architecte urbaniste, est-ce qu'il y a de la place ou de l'espace pour un travail de réenchantement? Ou est-ce que la séparation, n'est-ce pas? Est-ce qu'il faut dire comme Gropius, cette séparation ne doit plus exister? Si vous lisez le manifeste que j'ai montré, c'est exactement ce qu'il dit. La première chose qu'il dit dans le manifeste, Gropius, c'est qu'il faut que la séparation entre artiste et artisan doit disparaître. C'est la première phrase.
Ça, on l'a déjà dans Martin Craft en Angleterre, au 19e.
Oui.
Justement, ils veulent sortir de l'art pour l'art et revenir à l'artisanat.
Oui.
Et faire en plus des objets qui s'adressent à tous.
Oui.
Alors, d'après ce que j'ai vu sur tout ça, ça a un petit peu échoué parce qu'en fait, ils ont fait des objets, ils ont fini par faire des objets extrêmement précieux au niveau des matériaux qu'ils utilisaient, etc. Et finalement, la bourgeoisie aisée qui a pu profiter de leur information. Mais il y avait cette idée qu'on trouve quand même aussi dans la sécession.
Oui. Alors, cette référence était explicitement. Campus, il parlait de William Morris, tout. Alors il disait qu'il faut faire comme William Morris et les sécessionnistes. Les peintres qu'il a engagés au moment, c'était les sécessionnistes pour la plupart. Alors il a dit il faut faire comme Morris, mais il ne faut pas être fâché avec la technologie comme Morris. Morris était trop fâché avec la technologie. Si vous lisez son utopie qu'il a écrit, donc il a écrit une utopie sur un monde imaginaire, l'industrie est complètement absente, la technologie. Alors Campus a dit il faut se réconcilier avec la technologie, on n'a pas le choix. Sinon on va s'isoler dans un monde comme Maurice et ses collègues ont fait à juillet et compris.
Et eux, en fait, ils étaient quand même en réaction par rapport à l'industrialisation.
Oui, par rapport au fait que ce soit la façon de raisonner les valeurs de l'industrie qui prime. Donc Campus a dit, nous on va travailler avec l'industrie, mais c'est nous qui allons faire le projet. L'industrie va être à notre service. Voilà.
C'est un outil.
Nous sommes un laboratoire. Et on va envoyer nos étudiants dans l'industrie pour montrer qu'on peut faire des choses autrement. Alors, les produits du Barros aussi, il n'y a que les bourgeois riches qui pourraient se les payer. On lui a beaucoup reproché. Mais c'est parce qu'on regarde les choses dans une perspective historique trop courte. Le résultat du Barros aujourd'hui, c'est Ikea. Eh bien, Ikea, tout le monde se lâche. Regardez les étudiants, ils se meublent. C'est formidable, moi, je trouve ça formidable. On peut dire tout le mal qu'on voudra d'Ikea, mais on peut dire, ça, c'est le Barros incarné aujourd'hui. Vous voyez, si on prend une perspective historique un peu plus longue, l'idéal du Barros, il se trouve là. Mais les premiers modèles, c'était des prototypes. Donc, ça coûte aussi cher qu'une bagnole de Formule 1. C'est normal. Et pour Maurice, c'est la même chose. On assiste d'ailleurs aujourd'hui, c'est assez intéressant que tu mentionnes la chose, a un regain d'intérêt pour ce qu'on appelle le néo-artisanat. Il se trouve que l'outil technologique actuel, avec les machines à commande numérique, permettent de fabriquer des objets en un seul exemplaire, pas plus cher que si on les fabriquait à des millions d'exemplaires. Beaucoup plus cher. Donc l'idéal de Maurice redevient possible à des coûts socialement acceptables. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent dans cette perspective. Ça, c'est assez intéressant. Et qui d'ailleurs, Maurice jouit d'un regard d'intérêt dans le monde anglo-saxon. On relit ses œuvres, on réinterprète, on le sort un peu de sa gang moyenâgeuse, parce que c'était un grand esprit, hein. Ça c'est sûr.
Et actuellement, qui vous donnerait un exemple d'architecte qui s'inspire directement du baron, un monde entier?
Aucun architecte oserait se réclamer du Barros aujourd'hui. Aucun architecte oserait se réclamer du Barros. Non. De peur d'être d'abord exécuté tout de suite.
Ringard ?
Oui, Ringard, oui, bien sûr. Le Barros s'est dépassé, voyons donc.
Et le nouveau projet urbaniste
à Vienne,
en Autriche, dans la capitale.
Oui.
Apparemment, il tenait compte de l'expérience de l'usager.
Oui,
dans les habitations.
Oui. Oui. Non, mais on peut trouver dans le monde d'aujourd'hui des réinventions exemplaires. C'est ça. Le problème, c'est qu'il ne faut pas se contenter de regarder les images. Surtout pour ce genre d'objet. Donc, il faut avoir des témoignages de gens qui y habitent, de gens qui travaillent, de gens qui les réparent, qui les entretiennent. Tout ça, c'est des usagers. Des gens qui habitent à côté. Alors, c'est tout ça qui fait la qualité de l'image. Alors, on me dira, pareil pour les processus. Allez voir les gens qui y habitent. Il paraît que les gens sont contents.
Oui, à un moment donné.
Pas tous.
Allez voir, on parle là, les gens qui ont travaillé. Ou les gens qui vont à la bibliothèque, ils sont contents. Est-ce que ça correspond? Les gens qui l'entretiennent, est-ce que ça coûte cher? La vie de l'île. Il faut voir tout ce monde assez extrêmement content. Donc, il faut voir ce qu'on appelle dans le jargon la constellation d'acteurs.
En fait, c'est des paramètres.
Ben, j'hésite à utiliser le terme paramètre pour les êtres humains. L'erreur fonctionnaliste, c'est d'avoir voulu paramétriser l'être humain. Les ergonomes, c'est ce qu'ils font. Ils paramétrisent l'être humain. Donc, ils vont vous dire, voilà, un être humain, voilà, c'est comme ça, le bras, ça, quand, de 0 à 15 ans, ça augmente, donc il faut prévoir le mobilier en conséquence. On paramétrise l'être humain. Mais c'est pas la peine d'être philosophe pour dire qu'il n'est pas paramétrisable. C'est-à-dire que la dimension non paramétrisable, c'est quand même la plus digne dans l'être humain. Or, c'est avec celle-ci que dans les professions de projet, on travaille aussi. Pas seulement avec la dimension paramétrisable, mais aussi avec la dimension paramétrisable. Je prends l'exemple des personnes atteintes de maladies de Alzheimer. Il y a beaucoup d'intérêt justement entre les architectes, les designers, pour ces questions. Alors, il y a deux attitudes. Une attitude qui consiste à dire, bon, c'est des personnes handicapées qui ont des déficiences intellectuelles très sévères, ce qui est vrai. Il faut les observer de façon à concevoir un environnement matériel, donc domestique, qui corresponde à leur handicap. L'autre école, elle dit, c'est vrai qu'ils sont handicapés cognitivement, intellectuellement, affectivement aussi, anthropologiquement, identitairement, etc. Mais il reste toujours un peu d'humanité quand même. C'est pas des bêtes. Donc c'est avec ce petit peu d'humanité qu'on va travailler. Avec ce petit peu de ressources, avec ce petit peu de projets qui leur reste, n'est-ce pas? Et on va essayer de travailler avec ça. C'est plus difficile quand on est architecte de travailler avec ça que de paramétriser ce qui reste.
Ça, c'est la vérité, si vous y êtes.
Oui, mais c'est plus difficile, et c'est plus difficile à enseigner dans les écoles.
La vérité.
Voilà. Alors, on parvient à des résultats assez étonnants. C'est tout récent.
L'avenir, il est là.
Forme d'avenir. Et ça, c'était l'utopie du Barros. L'utopie du Barros, c'était de dire, on construit pour des êtres humains, la première chose à faire, c'est de se faire une idée de l'être humain qui correspond à la dignité de l'être humain. Et non pas dire que l'être humain, par exemple, c'est quelqu'un qui a des besoins. Si vous allez dans une école, n'importe quelle école de design, ou beaucoup d'écoles de design, on commence à dire, ben voilà, quels sont les besoins des usagers. Mais c'est vrai qu'on a des besoins. Les animaux aussi en ont des besoins. Mais on a autre chose que des besoins. Donc, on travaille avec des dimensions, et là, bon, j'anticipe un peu sur la troisième séance, et sur le thème de notre université, n'est-ce pas? Il y a le mot spiritualité qui renvoie à des dimensions anthropologiques, etc. C'est comment on travaille avec ça dans ces disciplines qui n'ont pas l'habitude de travailler avec ça. Et le Barros, c'est ça qu'il voulait faire, mais il n'a pas eu le temps de le réaliser. Donc je pense qu'on peut reprendre ce projet, l'actualiser, bien sûr. Le contexte a changé, la technologie a changé, les conditions sociales ont changé, les modes ont changé, les façons de penser ont changé, mais on est toujours dans cette longue histoire des métamorphoses de la conscience. On verra qu'on est en train de vivre peut-être une nouvelle métamorphose, une espèce de nouvelle charnière.
Une mentalité évoluée de cette manière. Une mentalité
évoluée. Oui, là on est dans quelque chose d'un peu plus métahistorique que le changement des mentalités.
Et il y a eu des tentatives, je pense à René Levasseur, cet architecte autrichien là, qui a vraiment lui aussi, il avait un projet.
Oui.
Important. Qu'est-ce qu'il en est advenu? Est-ce qu'il y a eu effectivement des constructions qui ont été réalisées?
Ah oui. Ah oui, il a construit,
comment,
oui.
Comment ça se...
Ah ben les gens sont très contents de vivre là. Voilà. Oui, très contents, pas seulement à cause des excès colorés, formels, mais parce qu'il a vraiment réfléchi aux dimensions sociales, de ce que ça veut dire de vivre dans un immeuble avec des voisins, avec un environnement et tout ça. Apparemment, bon, je n'ai pas de témoignage direct.
Oui, ça continue.
Non, il n'a pas fait congé. Ouais, il était trop.
Quel est le nom de cet architecte, madame?
Wunderwasser.
Wunderwasser.
Je peux vous l'écrire autant que si vous voulez. Bon, pour bien faire, je ne sais pas, il est l'heure peut-être de conclure. Oui. Pour bien faire, alors, pour, comment dire, pour que vous puissiez m'accompagner davantage, normalement, je devrais vous donner un exercice pour là. Alors, quel exercice peut-on donner? Je conclue là-dessus. Vous serez dispensé de l'exercice. Quel exercice on peut donner après donc, cette présentation? Eh bien, l'exercice consiste, pour savoir si on a bien compris, non pas de répondre à une question comme une interro, comme on fait dans nos écoles actuellement, mais d'essayer de vraiment entrer dans la conscience des mondes dans lesquels on a évolué un peu avec ces images. Donc d'essayer de vraiment adopter du mieux possible la vision du monde de l'époque pour bien la comprendre et pour comprendre comment une telle métamorphose de la conscience est possible. C'est extrêmement difficile comme exercice. C'est ce genre d'exercice qu'on fait en phénoménologie. Alors, un type d'exercice que je trouve tout à fait fécond pour faire ce travail d'approfondissement, c'est de rendre sous forme artistique la charnière. Je pourrais vous demander, ou j'aurais dû vous demander, d'écrire sous forme d'un poème, par exemple d'un coup, un qui décrirait, donc en très peu de mots, le monde d'avant et le monde d'après, un autre qui décrit le monde d'après, ou de le faire sous forme d'un collage. Tout le monde peut faire ça. On n'a pas besoin d'être des artistes pour faire ça. Et on aurait pu, j'aurais pu vous demander à chacun et chacune de faire un collage, je vous limite par exemple le nombre de matériaux, la dimension, le format. Chacun fait un collage avec à gauche le monde d'avant et à droite le monde d'après. Comment vous le vivez, comment vous le représentez, et après on expose tous ces collages sur le mur et on regarde ça. Voilà comment, vous voyez, ça n'a pas l'air très scientifique comme travail, mais c'est extrêmement fécond parce que ça permet de voir comment on essaie de comprendre quelque chose qui peut être difficile à comprendre et qui, sous forme philosophique, par exemple, exige d'autres capacités intellectuelles. Mais vous n'aurez pas de...